Africa.
Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Après l'annonce vendredi par Paris de la reprise des opérations conjointes entre Barkhane et les forces armées maliennes, peut-on dire que la brouille entre Bamako et Paris est-elle terminée? Nous en débattrons ce soir dans votre émission Le Grand Rendez-vous. Mais d'abord, on retrouve notre invité décryptage pour parler du polémiste Éric Zemmour.
Dans le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Jean-Yves Camus, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, chercheur associé à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, également directeur de l'Observatoire des Radicalités Politiques de la Fondation Jaurès, proche du Parti Socialiste. Le polémiste d'extrême droite Éric Zemmour, chroniqueur au Figaro depuis plusieurs années et de la chaîne CNews de l'homme d'affaires Vincent Bolloré, est de plus en plus controversé et pourtant il poursuit ses activités sur les deux médias. Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que nous avons une conception de la liberté d'expression sur les chaînes de télévision qui repose sur un système de contrôle a posteriori. C'est-à-dire que le Conseil supérieur de l'audiovisuel visionne et écoute ce qui est dit sur les chaînes de radio et de télévision et sanctionne ce qui a éventuellement été dit, qui contrevient à la loi ou aux règles déontologiques. La deuxième possibilité, c'est que ce Conseil supérieur de l'audiovisuel est saisi par un ou des particuliers de quelque chose qui a été dit à l'antenne et qui, là aussi, tombe sous le coup de la loi ou constitue une incitation à la haine ou une entorse à la déontologie journalistique, et c'est seulement lorsqu'il décide de se saisir ou qu'il est saisi que le CSA prononce éventuellement des sanctions. Mais les sanctions, qui sauf fait absolument rarissime, ne vont jamais jusqu'à la disparition de l'antenne de la personne incriminée.
Mais Éric Zemmour a déjà été plus d'une fois condamné pour injure et provocation à la haine. Vous voulez dire que ces condamnations pénales ne changent rien à cette situation ?
Non, ces condamnations pénales ne changent rien à cette situation parce que ce sont deux choses différentes. C'est-à-dire que Éric Zemmour a déjà été condamné au pénal, il sera peut-être à l'avenir condamné au pénal, mais une fois que la condamnation est prononcée et qu'il a exécuté éventuellement la peine, qui est souvent une amende, une fois qu'il a versé cette amende, eh bien, ça y est, l'affaire est résolue. Et quelqu'un qui est condamné, si vous voulez, n'a pas perdu la possibilité qu'il a de s'exprimer sur une antenne. Une remarque, par exemple, Jean-Marie Le Pen a été condamné maintes fois dans les années 80, 90, 2000, toujours pour des affaires de provocation à la haine raciale.
Le fondateur du Front National,
et pourtant il a continué à participer à des débats télévisés, à être invité dans les médias.
De l'avis de certains Français, Éric Zemmour spécifiquement bénéficierait d'une protection ou tout au moins d'un laxisme de la part de l'État. Est-ce que c'est votre sentiment ?
Ce n'est pas mon sentiment parce que malheureusement, dans des affaires similaires, les peines ne sont pas extrêmement dissuasives et les amendes, elles sont payées quand les gens ont le temps. La justice ne s'acharne pas trop sur ce type de condamnation. C'est assez simple de comprendre pourquoi Éric Zemmour est à l'antenne. C'est une question d'audimat. C'est tout simplement une question d'audimat. La chaîne sur laquelle il officie, donc CNews, est une chaîne privée. L'État n'a pas le droit d'imposer à une chaîne privée quoi que ce soit, puisque ça n'est pas une chaîne de service public. Donc c'est aux dirigeants de la chaîne de prendre leurs responsabilités et à un moment donné de décider s'ils souhaitent continuer à l'inviter ou pas. Et moi je pense que c'est vraiment la logique de l'audimat qui joue dans cette affaire. Qu'on en soit heureux ou qu'on le déplore, les émissions d'Éric Zemmour attirent un grand nombre de téléspectateurs.
Il fait de l'audience.
Il fait de l'audience. Et pendant que les téléspectateurs ont l'œil rivé sur CNews, ils ne vont pas à la concurrence. Je crois qu'il y a un problème avec ceux qui pensent qu'Éric Zemmour a raison. Le véritable problème, c'est qu'il y a en France un certain nombre de gens pour qui la société multiculturelle est une erreur. C'est-à-dire des gens qui souhaiteraient, ils n'expliquent pas comment, mais qui souhaiteraient qu'on en revienne à la conception typiquement française de l'identité, qui est « je ne veux voir qu'une seule tête ». C'est-à-dire finalement,
une seule race.
Tout le monde doit être sur le même modèle. Il n'y a pas d'identité multiple. Il n'y a pas d'identité complexe, il n'y a pas de gens qui arrivent avec leur bagage, avec leur culture et qui réussissent à articuler ça avec la culture française.
Des partisans d'Éric Zemmour qui s'activent sur les réseaux sociaux pour la candidature de ce dernier à la présidentielle de l'année prochaine, est-ce qu'il a une réelle chance face peut-être à la débâcle du Rassemblement national aux dernières régionales et aussi face à l'appel d'un retour au Front national?
Vous savez, moi, là aussi, je suis très prudent parce que les régionales, c'est un scrutin qui s'est déroulé dans des circonstances très particulières, avec une abstention de 66%, en grande partie imputable à la pandémie. Les gens avaient la tête ailleurs. Éric Zemmour, c'est une candidature qui bénéficie avant tout d'un immense buzz médiatique entretenu par le principal intéressé lui-même, qui évidemment c'est ICER, puisqu'il est un homme de médias. Les enquêtes d'opinion qu'on a, les dernières, montrent que le match devient un match à trois. C'est-à-dire qu'on avait Emmanuel Macron, Marine Le Pen à coup pratiquement sûr. On a potentiellement Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Xavier Bertrand. Mais là aussi, prudent. Des Républicains. Xavier Bertrand, précisément, n'est pas le candidat des Républicains. Il est candidat en son nom.
Jean-Yves Camus, merci beaucoup.
Merci à vous.
Politologue, chercheur associé à l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques. Vous êtes également directeur de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jaurès, proche du Parti socialiste.
Africa, le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour votre émission. L'annonce vendredi par le côté français, ou plutôt le camp français, de la reprise des opérations conjointes entre Barkhane et les forces armées maliennes marque-t-elle la réconciliation avec les autorités militaires de transition? Quelles sont les raisons de ce qui apparaît comme un changement de ton du côté de Paris? Nous en parlons ce soir avec trois invités. Baba Dakono, bonsoir. Monsieur Dakono, vous m'entendez, secrétaire exécutif chez Observatoire citoyen sur la gouvernance et la sécurité alimentaire. Vous m'entendez, monsieur Dakono?
Oui, je vous reçois. Et vous m'entendez?
Parfaitement. Et je rappelle que vous travaillez aussi comme consultant avec la primature, le premier ministère malien, c'est cela?
Non. C'était pour une période définie et c'est fini depuis un bout de temps.
D'accord, merci de la précision. Et en ligne de Bamako, Étienne Fakaba Sissoko, bonsoir.
Bonsoir.
Enseignant-chercheur au Centre de recherche et d'analyse politique, économique et sociale du Mali. Vous êtes également enseignant à la Faculté des sciences économiques et de gestion à Bamako. Et en ligne de Paris avec nous, Tiambel Gimbayara, bonsoir.
De l'invitation.
Merci à vous, journaliste malien, directeur de publication de La Voix du Mali. Avant d'entrer dans le débat qui est le nôtre ce soir, je voudrais commencer par vous, monsieur Dakono. Cette coopération militaire Barkhane-Fama, la rupture de cette coopération a-t-elle été effective? Et si oui, comment s'était-elle ou s'est-elle traduite, cette pause?
Merci. Ben, il ne s'agissait pas fondamentalement d'une rupture totale de la coopération militaire entre la France et le Mali. Il s'agissait de la suspension des opérations conjointes. Comme vous le savez, dans le cadre de l'opération Barkhane, il y avait des opérations conjointes FAMA, militaires français de l'opération Barkhane, comme ça se faisait également au Niger et au Burkina. Il s'est agi de la suspension de cette coopération militaire-là. Et on a vu pendant la période de cette suspension que les opérations du côté français ont continué, tout comme du côté malien avec les attaques qu'on a vues, mais également quelques succès militaires, que ce soit du côté français ou du côté malien, qu'on a pu observer sur le terrain.
Donc on peut dire qu'en réalité, cette suspension n'a vraiment pas été effective, puisqu'elle a été annoncée il y a tout juste un mois par le président français.
Elle a été effective parce que il y a quelques semaines, il y a moins de 10 jours, il y a eu une opération militaire française de l'opération Barkhane qui s'est tenue de façon unilatérale. Oui, elle a été effective dans ce sens, mais elle n'a pas duré. Comme je le disais, dans tous les cas, les opérations militaires se poursuivaient d'un côté comme de l'autre.
Elle n'a pas eu une incidence sur le terrain et c'est peut-être pas cela, ça n'a rien à voir avec les attaques qui se sont multipliées, cette suspension n'a rien à voir avec les attaques qui se sont multipliées ces dernières semaines au Mali.
C'est très difficile à dire parce qu'on sait que les militaires maliens, qu'on appelle les FAMA, s'appuie énormément sur la coopération militaire française du point de vue du renseignement, tout comme les militaires également français s'appuient sur la connaissance de terrain des militaires maliens à certains endroits. Donc c'est difficile de dire qu'il n'y a pas eu d'effet sur la suspension de ces opérations conjointes-là. Donc c'est, peut-être le temps nous le dira certainement si c'est en lien direct à mettre avec cette suspension, les attaques qu'on a observées des positions maliennes, notamment dans le centre du Mali et quelquefois dans le nord du pays. Mais actuellement, c'est un peu tôt pour tirer les conclusions des conséquences néfastes de la suspension de ces opérations conjointes.
Merci. Alors, Tiambel Guimbayara, conséquences ou pas, mais en tout cas, cette suspension n'a pas duré puisque le communiqué du ministère des Armées a annoncé donc la reprise de ces opérations conjointes entre Barkhane et les forces armées vendredi dernier. Cette suspension a été annoncée il y a un mois. Et d'après le communiqué du ministère des Armées, cette reprise fait suite aux consultations avec les autorités maliennes de transition et les pays de la région. Avez-vous connaissance de ces discussions et si oui, sur quel point ont-elles porté?
On l'annonce dans les médias et je crois que tout le monde a suivi le déplacement du chargé d'Afrique de l'Élysée, Franck Paris, à Bamako, avec une délégation et une rencontre avec les autorités, les plus hautes autorités maliennes. On a suivi cela sur les médias, que ce soit au Mali ou en France. Mais avant, le président Macron a également consulté ses compatriotes de la sous-région. On le rappelait par téléphone qu'il avait plusieurs entretiens avec les autres chefs d'État et il a même reçu certains. Bon, voilà. Autrement dit, je pense que c'était une rupture annoncée déjà dans les termes du communiqué qui a été fait par voie de presse et dont l'original est encore à rechercher. On disait dans les termes suivants « à titre conservatoire et temporaire ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'était une rupture unilatérale de la France. La France a qualifié les événements au Mali de second coup d'État, les événements du 24 mai parlant bien sûr par là, de second coup d'État. Et dès le 3 juin, la France est passée de l'acte à la parole par le ministre des Armées. On a ce communiqué là que l'AFP a relayé comme étant une rupture unilatérale de la coopération militaire. Bon, quand on rompt une coopération militaire avec un pays, je crois qu'on doit entendre l'autre partie. Et jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas entendu la partie malienne sur la rupture de cette coopération. Donc ça veut dire que le Mali a passé sous silence cette rupture et qui a fait de la rupture un effet d'annonce. La France n'est pas rentrée en profondeur par rapport à la rupture. On n'a pas eu de retrait, on n'a pas eu de rappel des conseillers militaires à Paris. Je n'en ai pas, en tout cas, connaissance de rappel de conseillers militaires comme ça se fait en diplomatie. Si on rompt dans un pays où si on est en crise, d'accord, l'ambassadeur est rappelé pour être consulté. Ça n'a pas été le cas pour ce cas précis.
Merci beaucoup. Donc, pour vous, c'était un effet d'annonce. Monsieur Sissoko, est-ce que vous êtes au courant des engagements qui ont été peut-être pris par le pouvoir militaire de transition? Monsieur Sissoko?
Mais ce qui est évident, je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais ce qui est évident, c'est qu'il y avait un certain nombre de raisons qui avaient été évoquées par la France pour justifier justement cette suspension de la coopération. Et on suppose que s'il y a reprise de la coopération, du moins, il y a eu un certain nombre d'engagements qui ont été pris par les autorités de la transition. Et parmi ces engagements, il y avait le respect du délai de la transition, c'est-à-dire l'organisation des élections à la date prévue en février 2022.
Donc pour vous, les autorités militaires ont peut-être se sont engagées à organiser les élections en février prochain, comme prévu?
Absolument, absolument. Il n'y a pas de doute aujourd'hui que cet engagement a été pris. Si on s'en tient au balai diplomatique qui y a depuis quelques jours auprès des chefs d'État de la sous-région et les émissaires, comme en parlait un des co-débatteurs tout à l'heure, des émissaires qui ont été reçus par le président de la transition, qui auraient, d'après les indiscrétions, réitéré cet engagement-là de respecter les délais de la transition. Mais quelles que soient, de mon point de vue, les raisons, aujourd'hui, il est évident que la France sort perdante de cet effet d'annonce, finalement, qui n'aura...
On va en parler dans la seconde partie pour que notre débat soit un peu structuré comme je le souhaite, M. Sissoko. Alors, je voudrais qu'on dise encore un mot sur ce que vous avez affirmé. Oui, peut-être les autorités militaires ont pris des engagements sur le respect du calendrier électoral, mais certains de vos collègues experts disent aussi que peut-être il y a eu des engagements sur le fait que en cas d'ouverture des négociations avec le groupe djihadiste, il y aurait une sorte de ligne rouge à ne pas franchir, c'est-à-dire qui consisterait à maintenir la laïcité de l'État malgré tout face à ces groupes djihadistes.
C'est cela. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de questions. Ce n'est pas un secret. La France est clairement opposée à la négociation avec les djihadistes, avec les terroristes. Mais sauf que depuis la conférence d'entente nationale, au dialogue national inclusif, à la concertation nationale après les événements du 20 août dernier, l'ensemble des populations maliennes, toutes les couches maliennes, se sont prononcées en faveur d'une négociation avec les djihadistes, ou en tout cas d'une ouverture, d'entrevoir la possibilité de négocier avec les terroristes. Donc aujourd'hui, la France se retrouve seule dans cette posture-là. Et les autorités de la transition, s'ils doivent aller dans le sens de ce que le peuple, dans sa large majorité, souhaite, ils ne peuvent faire autre chose que d'aller dans ce sens-là.
Et de suivre les recommandations. Merci beaucoup, M. Sissoko. On se retrouve dans un instant pour examiner justement les leçons à tirer de cet épisode de tension entre Paris et Bamako.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Quelles sont les raisons de ce qui apparaît comme un changement de ton côté Paris après l'annonce vendredi de la reprise des opérations conjointes entre Barkhane et l'armée malienne? Nous en parlons ce soir avec Baba Dakono, secrétaire exécutif chez Observatoire citoyen sur la gouvernance et la sécurité, Étienne Fakaba Sissoko, enseignant-chercheur, et Tiambel Gimbayara, journaliste malien et directeur de publication de La Voix du Mali. Je reviens à vous, M. Dakono. M. Sissoko parlait tout à l'heure des conséquences de cette brouille entre Paris et Bamako. Y a-t-il vraiment un gagnant ou un perdant dans cette brouille diplomatique?
Oui, absolument, absolument. Des deux côtés, il y a des perdants, même si on peut dire que la France sort absolument perdante avec toutes les ressources humaine, financière, engagée dans le pays depuis presque maintenant 8 ans. La France est perdante, mais les plus gros perdants par rapport à ça, ce sont les communautés qui sont aujourd'hui prises en otage dans les différentes localités du pays, que ce soit au nord ou au centre du pays, du fait de l'insécurité caractérisée notamment par l'activisme des groupes qualifiés de terroristes. Donc oui, ce sont des gros perdants face à cette situation. Mais il est aussi important, je pense qu'il y a deux notions qui sont ressorti au cours de ces échanges-là. Je crois que c'est Tiambel qui en parlait tout à l'heure, la rupture unilatérale. Mais je tiens à préciser quand même qu'il ne s'agissait pas de rompre la collaboration. Il s'est agi à l'époque de suspendre les opérations au conjoint. La rupture de la collaboration, la coopération militaire obéit à d'autres formes. Il a rappelé lui-même Tiambel tout à l'heure. Il n'y a pas eu de rappel des conseillers en défense, mais au-delà de ça...
Mais c'était une suspension consécutive à une situation politique que la France n'approuvait pas. Donc,
Les désaccords entre le Mali et la France sur la gestion sécuritaire du pays remontent à plus loin. La question de dialogue avec les groupes qualifiés de terroristes a divisé Bamako et Paris depuis l'époque du président Ibrahim Boubacar Keïta. Pour rappeler, à l'époque, le président malien était dans la disposition de donner une suite à la demande des Maliens qui s'étaient exprimés au cours du dialogue national inclusif de discuter avec les groupes. En début d'année 2020, il a clairement indiqué cette volonté. C'était une première division du point de vue...
Pardon, monsieur Babada. On ne va pas, partant de cette annonce, plutôt que de revenir sur les précédentes divergences, mais aujourd'hui, donc, vous dites que ce sont les communautés qui ont perdu dans cette brouille. Mais aujourd'hui, en deux mots, qu'est-ce qui a finalement décidé la France, selon vous, à changer de ton et à finalement reprendre cette coopération juste un mois après sa suspension ?
Les acteurs sécuritaires emploient souvent une expression que nous autres chercheurs aussi on utilise, c'est que c'est le terrain qui commande. Il y a eu des développements sécuritaires, notamment du point de vue de l'État islamique, où on s'est rendu compte que ces opérations conjointes avaient des impacts assez positifs dans la campagne militaire menée contre ce groupe-là qui avait été désigné au sommet de Pau comme le principal ennemi dans la région des trois frontières. Donc oui, c'est probablement le fait que le terrain a dû guider en fait le choix et aussi je crois que c'est
la multiplication des attaques.
Etienne tout à l'heure sur le fait que ils ont dû obtenir en plus de ces situations qui émergent sur le terrain des engagements, des gages du côté des autorités maliennes. Merci. Sur les points de désaccord qui sont aussi politiques que sécuritaires.
Merci. Est-ce qu'il y a eu des conséquences politiques aussi, Tiambel, Monsieur Dakono parlait, des conséquences pour la population. Finalement, est-ce que cela a peut-être fragilisé aussi la position de la France, qui était déjà assez difficile au Mali et dans le Sahel en général ?
Oui, je pense évidemment que la France, par cette position unilatérale du président, un effet auquel ne s'attendait d'ailleurs pas l'opinion publique malienne, même si, a contribué à renforcer le camp du non à la France, à renforcer la contestation et surtout à renforcer le camp de ceux qui revendiquaient l'intervention de la Russie ou de d'autres puissances. En réalité, Baba Dakono le rappelait tantôt, c'est la réalité du terrain qui a commandé. La France ne peut pas en 8 ans s'investir autant dans le Sahel, sortir de la sorte sur un couac et continuer à intervenir sur un espace dans un pays sans la collaboration et sans le soutien des plus hautes autorités de ce pays-là. C'est aller en aventure et ça, elle ne pouvait pas se le permettre longtemps. Le silence malien a été plus stratégique et Paris est tombé pour une fois dans ce piège-là. Et donc aujourd'hui, il faut en sortir, il faut se réjouir que la raison prévale et que les deux parties reviennent à la collaboration.
Est-ce que vous pensez que ça a renforcé les autorités maliennes, ça les a radicalisées un peu cette prise d'opposition ou cette suspension unilatérale de la France ?
Cette position unilatérale de la France a plutôt donné un couloir et un regain d'hostilité aux djihadistes sur le terrain. Ça a donc ravivé leur position et ça a donné un lien comme si c'était la France répondait à l'injonction de ces djihadistes-là qui ne demandaient pas plus que le départ des forces étrangères pour négocier avec les Maliens et que la négociation soit un alibi encore pour maintenir ces forces-là. C'est prendre pour une cause et c'est pour une cause qui est évoquée par ses adversaires et puis la France au Sahel. La France défend la sécurité de l'Europe une fois de plus. Donc la situation ne pouvait pas être tenue par la France dans cette situation-là. Elle s'est ridiculisée carrément en continuant à tenir une cause. On ne peut pas aider un pays sans ses autorités, on ne peut pas aider des populations sans leurs implications, on ne peut pas lutter contre le terrorisme en intervenant avec des armées étrangères sur un sol étranger. Avec l'armée nigériane au Mali, ça ne pouvait pas continuer. C'était une insulte au peuple malien qui n'allait pas être acceptée de toutes les façons par le Mali, que ce soit ses autorités ou d'autres autorités maliennes.
Monsieur Sissoko, quelle leçon vous tirez de cette suspension unilatérale et finalement de ce retour en arrière, en quelque sorte, de la France ?
Il y a deux choses de mon point de vue. C'est que la première, c'est que la France ne peut pas se retirer dans ces conditions-là après avoir injecté autant d'argent et pour peu de résultats. Parce qu'en réalité, si on fait le bilan de cette intervention militaire depuis 2012 jusqu'à maintenant, c'est un échec. Et se retirer dans ces conditions-là, sans résultat probant, sans pour autant permettre au Mali de recouvrer l'intégrité de son territoire, sans pour autant bouter hors de nos frontières les groupes terroristes, les groupes djihadistes, est un échec pour la France. Et donc, de mon point de vue, il faut que la France revienne à de meilleurs sentiments pour comprendre que l'objectif pour lequel elle est venue au Mali n'est pas encore atteint. Et quels que soient les problèmes, il faut privilégier la voie du dialogue. Deuxième élément, c'est que ça montre aux autorités maliennes effectivement aussi que il y a le risque que nous perdions un partenaire aussi stratégique que la France qui aujourd'hui est présente sur le terrain et qui a plus de résultats que l'armée nationale. Ça aussi, il faut le reconnaître. Donc, de part et d'autre, ça montre très clairement que les rapports de force doivent s'équilibrer et que finalement, on doit regarder dans la même direction. Sur le plan politique...
Oui, c'est-à-dire qu'aucun des deux alliés n'avait intérêt à ce que la situation, le statu quo reste, c'est-à-dire celle de la suspension.
C'est cela. Aujourd'hui, personne n'a intérêt. Baba le rappelait tout à l'heure, ce sont les populations qui vont sortir perdantes. Si notre vocation en tant qu'État est de garantir la sécurité pour les populations, si notre volonté en tant que partenaire France est d'aider le pays à protéger ses populations et à recouvrer l'intégrité du territoire, on ne peut pas, sur un coup de tête, sur un quiproquo, sortir de cela. Je ne dis pas après que les raisons avancées par la France pour suspendre la coopération n'est pas légitime, mais on se dit que lorsque la Cour constitutionnelle d'un pays tranche une question politique pour dire que le président de la transition est tel, suivant telle et telle norme de la Constitution, qu'un partenaire aussi, même aussi privilégié que la France, ne pouvait pas aller au-delà, d'autant plus que les organisations sous-régionales que sont la CEDEAO et
sont restées muettes sur la question. Merci.
Ont accepté cette question. Donc, de mon point de vue, il y a effectivement quelque chose. On a voulu pousser un peu trop loin le bouchon.
Merci. Monsieur Baba Dakono, le communiqué de l'Élysée, du ministère des Armées dont je parlais tout à l'heure et qui annonçait la reprise des opérations conjointes semble aussi avoir démontré une certaine évolution de la position française sur la fin annoncée de l'opération Barkhane. Le communiqué dit cette transformation, hein, en parlant évidemment de la force Barkhane, ne signifie pas le départ du Sahel ni le ralentissement des opérations de contre-terrorisme de la France dans la région. Que faut-il comprendre concrètement?
Je pense que le communiqué clarifie juste cette position. Sinon, dès le départ, l'annonce signifiait que la présence militaire française allait être maintenue. Le format allait être différent. Ce ne serait plus l'opération Barkhane. Mais dans le cadre d'une opération militaire européenne, et ça traduisait un peu ce qu'on ressent depuis quelques mois, depuis quelques années, c'est que la France semble être essoufflée par rapport à cette opération militaire dans le Sahel.
Mais lorsque Emmanuel Macron faisait l'annonce de la fin de Barkhane, la fin prochaine de Barkhane, quelques jours après la suspension de la coopération des opérations conjointes Barkhane-Fama, est-ce que c'était clairement ressorti? On avait l'impression qu'il y avait comme aussi un... Elle se montrait un peu en colère lorsqu'elle annonçait la fin de cette opération.
Oui, ça traduisait. Il y avait de la colère. Je n'irai pas jusqu'à dire la colère, mais il y avait de la. On sentait que la France était. Il y avait de la déception. Il y avait quelques sentiments, ressentiments derrière cette position française. Mais le fait que la présence militaire française serait maintenue dans la région ressortait clairement. Et l'annonce disait que cette présence allait se faire suivant une présence européenne. Et c'est ce que je disais, c'est qu'on pressentait ça depuis quelques mois. Parce que la France cherche à se mettre en dessous ou à être embarquée dans le cadre d'une opération qui serait soutenue par les Européens. Et on l'a vu après Pau, il y a eu cette opération Takuba. Voilà, donc ce n'est que le prolongement. Mais c'est juste venu plus tôt qu'on le pensait. Et je pense que la France... a saisi l'occasion des événements de mai 2021 au Mali pour engager ce processus Merci. Qu'elle entend faire depuis quelques mois.
Oui, c'est-à-dire le deuxième coup d'État, quand vous parlez de mai. Tiambe Guimbayara, oui, est-ce que vous avez aussi peut-être le sentiment que le communiqué a rétabli un peu les choses concernant le retrait annoncé de la force Barkhane avec les propos de Mme Parly, la ministre des Armées que je viens d'évoquer?
En tout cas, les termes sont plus concrets maintenant qu'auparavant. Emmanuel Macron, dans son envolée lyrique, montrait une colère, une certaine exaspération, une certaine volonté de montrer que Paris est totalement en désaccord. Mais maintenant, cette reprise de coopération place dans son contexte, elle poursuit plus loin même l'opération Barkhane qui avait été suspendue, dont la fin était prévue, la mutation, disons, était prévue depuis le sommet de Pau avec l'intervention des 1500 soldats tchadiens dans la frontière, dans la partie des trois frontières entre le Mali, le Burkina et le Niger, même si cela était prévu quelque part. La succession d'événements jusqu'à la rupture de la coopération avec la Banque mondiale montrait que Paris était dans une certaine escalade. Maintenant, le retour à la norme avec ce voyage à Bamako, cette reprise du dialogue et puis cette annonce de la continuité même de la mutation de Barkhane ne refait que revenir au bon endroit et se retomber sur ses deux pieds parce que la France y gagne comme ça, le Mali y gagne comme ça et c'est dans ces conditions seulement qu'on peut bouter le terrorisme ou chercher les terroristes hors des trois frontières de ces pays-là et même du Sahel pour sécuriser enfin l'Europe qui a vol d'oiseau du Sahel, il faut le rappeler.
Merci Tiambe Guimbayara. On se retrouve dans quelques petites minutes pour conclure notre débat et nous aborderons la question de l'avenir entre les deux pays après cette annonce de la reprise des opérations conjointes Barkhane et Fama.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et dans votre émission ce soir, nous parlons avec nos invités de l'annonce de la reprise des opérations conjointes Forces françaises Barkhane et FAMA, les forces armées maliennes, avec Étienne Fakaba Sissoko, enseignant-chercheur au Centre de recherche et d'analyse politique, économique et sociale du Mali, également enseignant à la Faculté des sciences économiques et de gestion à Bamako, Baba Dakono, secrétaire exécutif chez Observatoire citoyen sur la gouvernance et la sécurité alimentaire, et Tiambe Guimbayara, directeur de publication de La Voix du Mali à Paris. Monsieur Sissoko, en guise de conclusion, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que cette reprise marque une nouvelle base ou bien va donner une nouvelle base des relations entre la France et le Mali après cet épisode de tension?
Absolument, et je crois que ça doit même aller au-delà du Mali et concerner le Sahel de façon générale. Parce que lorsqu'on sait que la France, compte tenu de sa superpuissance dans le Sahel aujourd'hui, si elle peut décider sur un coup de tête de se retirer comme un enfant frustré, ça doit interpeller les autorités de la sous-région, ça doit interpeller les pays membres du G5 Sahel sur la nécessité de mettre en place un mécanisme africain, un mécanisme sous-régional pour prendre à bras le corps la question de la lutte contre le terrorisme et la question de la sécurisation.
Pour éviter les humeurs de ce partenaire, du partenaire français?
Oui, absolument. Aujourd'hui, il faut beaucoup plus mettre l'accent sur la dimension Sahel, la dimension du G5 Sahel, une redynamisation du G5 Sahel, non pas sur le modèle actuel dont le financement restait toujours assuré par l'Union européenne, mais un mécanisme de fonctionnement du G5 Sahel sur le plan du financement, sur le plan de l'opérationnel, sur le plan même du déploiement des forces sur le terrain pour que enfin la sécurisation puisse être une question africaine, une question de la zone du Sahel dans un premier temps. Et ensuite, les partenaires pourront en ce moment s'y adjoindre. Maintenant, pour l'Europe, pour la France, effectivement, la nouvelle stratégie de la France qui est de faire porter la sécurisation de la lutte contre le terrorisme par l'Europe de façon générale peut aussi se mettre en place pour finalement qu'on sorte de cette coopération avec la France qui, de mon point de vue, n'a pas produit les résultats escomptés et dont l'efficacité semble être aujourd'hui remise en cause.
Tiambel, est-on à l'abri hein, au regard, ou bien tirant les leçons du dernier épisode dont nous avons parlé tout au long de cette émission, est-on à l'abri de telles situations à l'avenir?
On saurait être le prévenir, sauf si on regarde dans les courriers, mais c'est difficile. Donc, disons que c'est une situation
non, je dis parce que laquelle... vous avez déclaré, hein, je crois que c'est M. Dacono, que personne n'a gagné, que ce soit la France ou le Mali, n'a gagné de ce retrait, de cette suspension consécutive à la situation politique au Mali.
Personne ne sort gagnant, certes, mais les deux partenaires vont en même temps faire attention. C'est le désamour, les retrouvailles ne seront pas comme... avant, est-ce que les deux partenaires vont se faire entièrement confiance sur tous les plans? Il était prévu, par exemple, que des coopérants français s'installent au ministère de la Défense. Je ne crois pas que Bamako accepterait cette annonce ou cette avance. Takuba devrait intégrer jusqu'à un certain niveau, en tout cas dans la hiérarchie des renseignements des différents pays. Est-ce que ça va se faire à volonté ou à volo? Il y a aussi un aspect qu'on a négligé dans cette histoire, c'est l'engagement américain, les informations que les États-Unis détenaient dans cette zone-là. Et au début de l'opération Serval, l'opération Barkhane, l'armée américaine a été d'un apport certain pour l'engagement de la France sur le terrain. Elle semblait se retirer aussi bien avant l'annonce de Paris. Je ne sais pas si cela a pesé dans la balance ou pas, mais en tout cas, c'est la fin de la brouille, presque de la brouille, mais en tout cas, pour que le couple vive en harmonie, en symbiose, ça prendra du temps, tout comme les plaies se cicatrisent tout doucement.
Confiance difficile à retrouver. Oui. Monsieur Dacono, d'autres points de friction sont-ils à craindre ou vous pensez que la brouille est terminée et que désormais Paris et Bamako vont travailler au moins sur ce qui les concerne tous les deux, c'est la lutte contre le terrorisme au Mali et dans le Sahel, ensemble et désormais sans tension? Monsieur Dacono?
Non, ça va. Oui, non, ça va être extrêmement difficile, mais comme mes présidents le disaient tout à l'heure, au moins cette bouée a permis à chaque partenaire de peser un peu l'avenir. Donc les gens vont peut-être agir avec beaucoup plus de prudence et peut-être on va plus voir des réactions spontané de la sorte comme on l'a vu avec la sortie française récemment, mais qu'il n'y ait pas de bruit à l'avenir, ça va être extrêmement difficile parce que comme je le disais, idéologiquement sur le rapport avec les groupes qualifiés de terroristes, du point de vue du dialogue et de la négociation avec ces derniers, Paris et Bamako ne sont pas sous la même longueur d'onde. Bamako veut négocier, dialoguer du moins avec les groupes qualifiés de terroristes, ce qui n'est pas de l'avis de Paris. Donc, oui, on peut s'attendre à des bruits, mais on peut espérer qu'avec ce qui vient de se passer...
C'est le seul point où on risque d'assister à de nouvelles tensions ou il y en a d'autres?
Non, mais sur les questions politiques également, il y a des divergences de vues, notamment sur la durée de la transition, les missions de la transition. Donc, même si on semble avoir des gages de Paris par rapport au respect des 18 mois de la transition, il y a toutes ces questions-là qui demeurent. Donc, comme je le disais, ça va être extrêmement difficile de dire que ça va être une collaboration, une coopération parfaite au cours des prochains mois. Je pense que ce soit sur les questions sécuritaires ou encore sur les questions politiques, des divergences de vues pourraient survenir.
Monsieur Sissoko, puisqu'on est à la fin de l'émission, mais quelle aurait été, d'après vous, la meilleure approche ou la meilleure façon pour Paris de manifester son mécontentement avec du recul par rapport à ce deuxième coup d'État qui l'a donc poussé à suspendre cette coopération militaire avec les FAMA?
Non, ce n'est pas à la France de manifester son mécontentement face aux
questions. Étant un partenaire, si elle n'est pas contente, elle a le droit de le faire savoir aussi, puisqu'elle est impliquée dans cette lutte avec le Mali.
Un simple communiqué aurait suffi, un rappel de l'ambassadeur de France au Mali pour plus de détails aurait suffi sur des questions politiques. Et surtout qu'on sait que la situation du Mali est extrêmement fragile en ces périodes-là et que si on pousse le bouchon trop loin, c'est tout le Mali en fait qui risque de s'écrouler parce que les fondamentaux ont été ébranlés, parce que les équilibres sur le terrain, sur le théâtre des opérations ne tiennent plus qu'à un fil. Donc, de mon point de vue, un simple communiqué de désapprobation aurait suffi. Et sur les questions de financement des projets de développement ou d'aide publique au développement, la suspension ou en tout cas, comme l'a fait l'Union européenne, aurait pu suffire à décanter cette situation-là.
D'accord. D'après vous, la France aurait pu ou aurait dû s'y prendre autrement. Merci à vous, Étienne Fakaba-Sissoko, enseignant-chercheur et enseignant à la Faculté des sciences économiques et de gestion à l'Université Bamako, d'avoir participé à ce débat. Merci à Babada Kono, secrétaire exécutif chez Observatoire citoyen sur la gouvernance et la sécurité alimentaire, et à Tiambel Gimbayara, journaliste malien et directeur de publication de La Voix du Mali à Paris. Bonsoir.